Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. Nous avons besoin d'une préparation très spécifique pour prendre la Pâque. Nous pouvons déjà regarder en arrière, comparer notre vie actuellement avec notre vie un an en arrière. Nous pouvons comparer, nous pouvons voir si nous avons fait du progrès. Et nous lisons dans 1 Timothée chapitre 1 et le verset 5. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Je ne m'y rapporte pas. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Nous allons parler du cœur dans ce sermon. C'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Nous allons également parler de conscience dans le sermon, venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et aujourd'hui, donc, je vais parler sur notre préparation avant la Pâque. Le titre de ce sermon, c'est « Avant la Pâque, point de suspension ». Avant la Pâque, point de suspension. Nous sommes conscients que les pharisiens, comme c'est marqué dans Matthieu 23, que le Christ a dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils avaient des phylactères, ils avaient des franges. Ils aimaient les premières places, les premiers sièges. Ils aimaient à être appelés rabbi. Ce qui comptait pour eux, c'était l'extérieur, pas l'intérieur. Et nous sommes familiers avec Luc chapitre 18, où Jésus a parlé la parabole du pharisien et du publicain. Luc chapitre 18 et le verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Verset 12. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il était concerné par l'extérieur. Tandis que Dieu est concerné par notre intérieur. Dieu regarde nos cœurs et nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, ce que Paul disait. Je suis au milieu d'un contexte ici. 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, comme par exemple les pharisiens, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Qui sonde nos cœurs. Nous avons un but dans l'Église, c'est de devenir de plus en plus saints. Et Dieu nous a donné, Dieu nous a montré le chemin et le processus par lequel nous pouvons devenir de plus en plus saints. Il y avait beaucoup de problèmes dans l'Église de Corinthe. Il y avait des divisions. Quelqu'un avait des rapports illicites avec sa belle-mère. Le soir de la Pâque, les gens avaient faim, certaines personnes avaient faim, d'autres étaient ivres. Ils plaidaient aussi le différend devant les infidèles. Et de l'avis de la plupart des érudits, Paul a rédigé d'Éphèse cette première lettre aux gens de Corinthe vers l'an 55, notre ère. Et à l'époque, la ville de Corinthe avait une certaine réputation. Il n'y avait pas que des membres de l'Église qui avaient des problèmes, la ville tout entière avait une réputation, et voici ce qu'Adam Clark a écrit au sujet de la ville. De la ville de Corinthe, dans son commentaire sur la Bible. Bon, c'est traduit en français. Or, ses habitants étaient aussi lascifs qu'éduqués. Aussi lascifs qu'éduqués. Et le commentateur William Buckley écrit ceci dans sa Bible d'études quotidiennes, de nouveau donc la traduction. Corinthe avait aussi un autre visage. Elle avait la réputation d'une cité prospère, mais son nom servait aussi à décrire un mode de vie débauché. Et vivre comme un Corinthien à l'époque était devenu un terme courant dans la langue grecque et signifiait, entre autres, être immoral et débauché. Et c'était dans cette culture corrompue et immorale que Dieu a envoyé l'apôtre Paul pour qu'il y accomplisse une tâche énorme. Et dans cet abîme moral, notre Père Céleste a appelé un grand nombre de gens à sa vérité. Paul y a demeuré 18 mois et une congrégation importante était fondée, mais nous pouvons imaginer les difficultés des membres de Corinthe de vivre différemment des gens de la ville de Corinthe en général, de vivre la voie de Dieu. Et Paul a donné aux gens de Corinthe, bon, le premier épître de Corinthe, c'est un épître où il y a la correction, mais Paul a donné aux gens de Corinthe des instructions à propos de la Pâque, comment l'observer, et nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23, 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23, nous voyons la portée, la signification de la Pâque, car j'ai reçu, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, donc lors de la Pâque, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est important pour nous de garder en tête ce que symbolise le pain et le vin, avant même la Pâque. Et ensuite, nous avons des responsabilités face à ce sacrifice suprême du Christ. Le verset 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, d'une manière indigne, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Coupable à l'égard de ce sacrifice suprême du Christ. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même au préalable, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, si nous sommes baptisés, nous avons pris un engagement, et il faut que nous puissions nous regarder et se voir honnêtement. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Discerner le corps du Christ, discerner le sacrifice du Christ qui est mort pour nous, pour nos péchés, ce sacrifice immense. J'ai voulu aborder l'immensité de ce sacrifice, la souffrance ou les souffrances du Christ. Christ qui était tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Nous nous écartons de la voie de Dieu. Quand nous nous repentons, nous pouvons revenir, mais le Christ n'a jamais commis de péché. Si le Christ avait péché, nous n'aurions pas eu un sauveur. Déjà, dans le jardin de Gethsémané, c'est marqué qu'il avait des angoisses, de l'agonie, et que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Le terme médical, c'est hématidrosis. Sueur de sang. Et c'est ce qui se passe, c'est que quand il y a une forte angoisse, les capillaires minuscules des glandes sudoripares peuvent éclater, provoquant ainsi un mélange de la sueur et du sang. Tellement l'agonie était intense pour le Christ. Il savait pas où il allait passer. Il savait dans les moindres détails. Et la flagellation qui a suivi était particulièrement brutale et cruelle, puisque à l'époque, ils fouettaient, les Romains fouettaient avec des os, des bouts d'os et des bouts de fer qui déchiraient la chair. Nous voyons dans Ésaïe chapitre 52 et le verset 14 une description de la souffrance du Christ. De même, Ésaïe chapitre 52 et le verset 14, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. À cause d'un tel châtiment. Verset 15. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qui n'avait point entendu. Le jour qu'ils vont se rendre compte de leur péché. Ésaïe chapitre 53. Et le verset 5. Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était disposé, le Christ était disposé à souffrir. C'était la volonté de Dieu parce que Dieu a tant aimé le monde. Ça dépasse notre entendement. Le fait que le Christ était disposé à souffrir pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Verset 7. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. Et au milieu de verset 11, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. Le Christ s'est chargé de nos iniquités pour que nous puissions être délivrés de nos péchés. Et puis la souffrance du Christ a continué avec la crucifixion. La crucifixion, c'était une forme de torture prolongée. Le but, c'était fait pour durer. Difficile d'imaginer à quel point c'était cruel. C'était extrêmement cruel. La douleur était forte, si forte, si intense, si cruelle et si douloureuse. À celui qui était crucifié, il voulait infliger autant de douleur que possible, aussi longtemps que possible. C'était une torture, une souffrance inimaginable, une douleur très, très sévère. C'était brutal. Et nous pouvons voir la générosité d'un sacrifice, d'un tel sacrifice pour nous, et nous pouvons réfléchir à l'avant, réfléchir au sacrifice du Christ, c'est notre responsabilité. Dans Hébreux chapitre 12, je ne m'y rapporte pas, mais dans Hébreux chapitre 12, la Bible parle comme quoi le Christ a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Et la Russe définit ce mot, l'ignominie, comme un degré extrême du déshonneur ou de l'indignité résultant d'un outrage public, d'une condamnation ou d'une action infamante. Celui qui a créé ce monde, la parole, a subi l'ignominie. Peu de temps après avoir envoyé la lettre, que l'épître que nous appelons un Corinthien, Paul est parti d'Éphèse pour se rendre à Troas, puis en Macédoine. Et c'est là que Tite lui a communiqué la bonne nouvelle de la réaction positive de la congrégation de Corinthe à ses remontances et à sa correction. Et cela m'amène à faire ressortir le premier point que j'ai voulu souligner dans ce sermon, c'est le temps. Il y avait un certain laps de temps qui s'est écoulé entre le premier épître de Corinthiens et quand Paul a écrit le deuxième épître de Corinthiens. Il y avait un certain laps de temps et pendant ce temps, les gens de Corinthe avaient le temps de réfléchir. Ils ont pris à cœur ce que Paul a dit. Paul était du reste content dans 2 Corinthiens. Ils ont mis à profit le temps pour se repentir, pour changer. Ils ont bien utilisé le temps. Et nous, avant la Pâque, il nous convient, il nous faut prévoir le temps, prendre le temps nécessaire justement pour nous éprouver, pour nous examiner, pour nous juger, pour juger notre foi intérieure. De bien utiliser le temps qui nous reste avant la Pâque, c'est très bénéfique de jeûner, parce que en jeûnant, nous nous rapprochons de Dieu, quand c'est fait correctement, nous nous humilions, et c'est plus facile de voir, de reconnaître nos fautes à ce moment-là. Ils ont pris le temps et ils ont effectué un grand changement dans leur vie que nous voyons détaillée à partir de 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Ça lui faisait bien sûr beaucoup de bien à Paul. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Le premier épître de Paul les a vraiment touchés. Et avec le temps, ils ont changé. Verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance, un salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et c'était donc la tristesse selon Dieu. Ils ont vu le problème, ils ont vu leur péché, et ils se sont sentis coupables. La culpabilité a sa place dans certaines situations et à dessein. Dieu nous a créés capables d'apprendre ce qui est bien ou mal et de nous sentir coupables quand nous faisons quelque chose de mal. Il veut que ce sentiment de culpabilité pour un péché nous pousse justement à changer. Il veut que nous nous repentions et que nous nous débarrassions de notre culpabilité. Et bien entendu, nos consciences jouent un rôle. Il nous faut des consciences éclairées en gardant nos yeux sur ce que Dieu nous dit dans sa parole. Des consciences éclairées basées sur les enseignements de la Bible, de ce que Dieu nous a montré. Des consciences éduquées. C'est Dieu qui définit le bien et le mal, et c'est clairement énoncé dans la Bible. Et le fait que nous nous sentions coupables quand nous péchons, c'est un des moyens dont Dieu se sert pour nous amener à nous repentir. C'est quand nous mesurons la gravité de notre péché. À l'époque de Pierre, les gens qui écoutaient le sermon de Pierre avaient, je cite, « le cœur vivement touché ». Et le pardon de nos péchés et l'élimination de notre culpabilité sont seulement rendus possibles grâce au sacrifice d'amour de notre Sauveur qui a subi la peine de mort à notre place. Son sang versé nous purifie de nos péchés et nous délivre de notre culpabilité. Une fois que nous sommes sincèrement repentis, nous pouvons accepter le pardon divin et nous n'avons plus à nous sentir coupables, sachant, et je cite le psaume 103, qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le repentir ne se limite pas à simplement reconnaître ce qui est bien ou mal. Il s'agit de quelque chose qui est très personnel. Nous devons reconnaître que nous sommes personnellement coupables de transgresser la loi divine. Se repentir, c'est prendre pleinement conscience du fait que ce sont nos péchés qui nous ont séparés de Dieu et qui ont obligé le Christ, le Fils de Dieu, à mourir à notre place. Et notre désir, bien sûr, d'être pardonné et d'obéir à Dieu doit venir du cœur. Bien sûr, notre nature charnelle résiste à un tel processus, mais la Bible nous dit aussi, dans Romains 2, que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et Dieu nous donne la force supplémentaire. Philippiens chapitre 2 et le verset 13. Philippiens chapitre 2 et le verset 13, où nous lisons « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Quand nous nous repentons, nous changeons. Nous continuons sur le chemin de la croissance, qui est justement le chemin de la vie éternelle, le fait de vaincre. Et chaque Pâques devrait avoir pour nous un sens profond. Les enfants d'Israël avaient un sens d'urgence lors de la Pâque avant de quitter l'Égypte. Et c'est ce que nous voyons. Je ne m'y rapporte pas à Exode chapitre 12 et le verset 11. En parlant de la Pâque, Dieu a dit, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Et nous aussi, nous devrions avoir un sens d'urgence. Un sens d'urgence quand nous voyons nos responsabilités face au sacrifice du Christ, face à la cérémonie de la Pâque. J'avais parlé du cœur au début du sermon, et dans Marc chapitre 7, à partir du verset 17, un passage qui va jusqu'à verset 23, nous voyons que le Christ parle du cœur, il parle spirituellement du cœur. Marc chapitre 7 et le verset 17. Lorsqu'il fut rentré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il parle donc du processus naturel. Et comme j'ai dit, il parle du cœur dans un contexte spirituel. Verset 20. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. » Et ensuite, le Christ donne toute une liste de mauvaises pensées qui viennent donc du cœur, des adultères, des impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et le repentir a à voir avec ce qui est au-dedans. Au-dedans de nous, qui est dans notre cœur. Les adultères, les meurtres, les vols, ce genre de choses, c'est un acte physique, mais ça commence dans le cœur. Dieu veut que nous enlevions ce qui nous salit pour notre propre bien. Et nous pouvons approfondir nos vies, nos cœurs. Nous avons besoin d'examiner nos cœurs. Le verset 23, toujours Marc chapitre 7, verset 23, « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Et nous pouvons examiner nos motivations, nos mobiles, nos intentions. Les gens de Corinthe, justement, se sont examinés. Ils ont éloigné le mal. C'est ce que nous voyons dans le deuxième chapitre de 2 Corinthiens avec celui qui avait des relations illicites avec sa belle-mère. Et c'est le deuxième point que j'ai voulu souligner dans ce sermon, le fait d'enlever le mal, d'enlever ce qui est mauvais. Le deuxième point, donc, c'est ce que les gens de Corinthe ont fait aussi. Ils ont enlevé ce qui était mauvais dans leur vie parce qu'ils se sont repentis. Et nous arrivons au troisième point que je voulais souligner. C'est le fait de remplacer ce qui était mauvais par ce qui est bon. Le fait de remplacer ce qui était mauvais par ce qui est bon, c'est le troisième point. Et nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 11 ce qui se produit avec les gens de Corinthe. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Il y avait des fruits. Jean-Baptiste parlait de produire des fruits dignes de la repentance. Et les gens de Corinthe ont produit ces fruits dignes de la repentance. Des fruits, là, il n'y en avait pas auparavant. Verset 11, je reprends. « Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-il pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle. » On voit donc c'est un changement d'esprit. Eux qui étaient laxistes avant, il y avait ici un désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Et c'est très encourageant pour nous, parce que si les gens de Corinthe ont fait ceci, avec des circonstances difficiles, étant donné la société dans laquelle ils vivaient, les handicaps, si je puis dire, qu'ils avaient, ils avaient changé, malgré ceci, et ils avaient changé profondément. C'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 7. Dieu leur avait accordé le repentir, Dieu les avait aidés pour qu'ils puissent continuer sur le chemin de la croissance, sur le chemin de la vie éternelle. Et ils ont enrichi leur vie. Ils ont fortifié leur vie, ils étaient plus épanouis en tant que personne, plus accomplis. Ils étaient plus heureux, ils avaient enlevé ce qui était mauvais et l'ont remplacé par ce qui était bon. Et nous pouvons faire de même. Il y a un verset que je trouve intéressant dans ce contexte, je ne m'y rapporte pas. Ce verset se trouve dans Deutéronome chapitre 12 et le verset 28. Deutéronome chapitre 12 et le verset 28, je lis « Garde et écoute ». Donc, Dieu qui parle à Israël, « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. » Et quand nous nous éloignons du mal, quand nous arrêtons de pécher, et que nous le remplaçons par ce qui est bon, ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes plus épanouis, nous sommes plus heureux. Nous connaissons l'Écriture dans Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Hébreux chapitre 4 et le verset 12, où il est question de la parole de Dieu, que cette parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Et le verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Dieu voit tout. Et nous pouvons aussi, nous aussi, utiliser la parole de Dieu pour juger les pensées de nos cœurs. Il y a aussi, en parallèle avec ceci, je m'y rapporte pas, Jérémie chapitre 11 et le verset 20. Jérémie chapitre 11 et le verset 20 qui nous précise « Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. » Avec l'aide de Dieu, nous avons la possibilité de connaître notre fort intérieur objectivement. Dieu veut que nous examinions donc nos cœurs, nos motivations, nos motifs et nos intentions. Et Dieu, bien sûr, veut des motifs purs. Il y a un autre exemple dont j'ai voulu vous parler, de quelqu'un qui a changé. On vient de voir les gens de Corinthe qui ont d'abord eu le temps, deuxièmement ils ont délaissé, ils ont enlevé ce qui était mauvais, et troisièmement, ils l'ont remplacé par ce qui est bon. Et j'ai voulu vous parler d'un autre exemple, cette fois-ci dans l'Ancien Testament, de quelqu'un qui a fait la même chose. Mais avant de vous parler de cette personne, un roi de Juda, j'ai voulu vous parler de son père, parce que c'est intéressant de mettre ça dans le contexte, parce que son père était un très bon roi, Ézéchias. Et c'est pendant son règne que Dieu l'a protégé. Il a protégé les Assyriens. Et l'ange de l'Éternel a tué 185 000 hommes, 185 000 Assyriens. C'est dans son règne que Ésaïe a déclaré au roi Ézéchias que Dieu allait faire reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire. Dieu était très présent dans la vie d'Ézéchias. Et Ézéchias était un roi exceptionnel. Nous voyons à quel point la Bible est élogieuse à propos d'Ézéchias dans 2 Chroniques, chapitre 31. 2 Chroniques, chapitre 31, et le verset 20. Nous lisons ceci. 2 Chroniques, chapitre 31, et le verset 20. « Voici ce qui fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur. Et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. » C'était le père de Manassé. Ézéchias était un roi très juste, et Manassé, qui l'a suivi, était un roi très méchant. Il est venu sur le trône à l'âge de 12 ans. Et nous voyons de 2 Chroniques, chapitre 33, comment il a agi, comment il s'est comporté. 2 Chroniques, chapitre 33, et le verset 1, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Israël était censé être un exemple pour les autres nations, et là, il a fait la même chose que les autres nations que l'Éternel avait chassées. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal et il fit des idoles d'Astarté et se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit, « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. » Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Et le verset 6 nous montre à quel point il faisait du mal. Verset 6, il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'est donné à la magie et établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il était sur une pente glissante, et il descendait de plus en plus. Verset 7, il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. » Verset 9. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Il était vraiment tourné vers le mal. Et ça me fait penser à ce qui est écrit à propos du déluge, où c'est marqué toutes les pensées de leur cœur, les gens qui vivaient à cette époque, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous avons une précision dans 2 Rois, chapitre 21, verset 16, une précision supplémentaire, 2 Rois, chapitre 21, verset 16, où nous lisons « Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, tous les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Il a complètement rejeté son Créateur. Et l'historien juif Joseph a mentionné le fait que Manassé a versé beaucoup de sang parmi ceux qui essayaient de suivre l'Éternel. Je cite, « Du fait de son mépris pour Dieu, il égorgea barbarement tous les hommes justes parmi les Hébreux. Il n'épargna pas non plus les prophètes, car il en égorgea plusieurs par jour, jusqu'à ce que Jérusalem soit maculée de sang. » Antiquité des Juifs, et c'est nous qui traduisons. Il y a aussi la tradition que Manassé a fait scier, a tué en sciant Ésaïe. Ésaïe qui était le conseiller spirituel de son père. Il est difficile d'imaginer un passé plus coupable que celui de Manassé. Toujours de Chroniques, chapitre 33, et le verset 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Dieu a chassé les nations devant les enfants d'Israël à cause de leur abomination, et Dieu a fait pareil avec Manassé à cause de ses abominations. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. J'ai voulu lire ce verset dans la version second 21. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Dans la version Shouraki, c'est marqué « Ils s'emparent de Manassé avec des crocs ». C'était douloureux, c'était extrêmement douloureux, extrêmement humiliant. Et sur un plan humain, sa situation était sans espoir. Sans espoir. Mais tout compte fait, Manassé a eu le temps de réfléchir à propos de ce qu'il avait fait. Il avait, et ça c'est notre premier point que nous avons vu tout à l'heure, il avait du temps. Du temps dans la captivité. Et ce qui est extraordinaire dans l'exemple de Manassé, c'est qu'il se repent de ses péchés. Ses péchés sont très nombreux, mais il a pris le temps de s'examiner, d'examiner sa vie. Verset 12. De Chroniques, chapitre 33, à la verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, dans cette souffrance, sans espoir sur un plan humain, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et nous voyons ici des superlatifs. Il s'examine et il se repent de ses péchés, mais il a pris le temps de s'examiner. Et bien sûr, Satan, venu distraire avant la Pâque, pour que nous ne prenions pas le temps de nous examiner. Et on peut faire le parallèle aussi avec Luc chapitre 15, le verset 17, à propos du fils prodigue, je ne m'y rapporte pas, où nous lisons Luc chapitre 15, le verset 17, étant rentré en lui-même, il a pris aussi, lui aussi, le temps d'examiner sa vie. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Deux Chroniques 33 et le verset 13. Lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassa reconnut que l'Éternel est Dieu. C'était vraiment, vraiment inespéré pour Manassé de pouvoir retourner dans son royaume et de régner de nouveau. Même les péchés de Manassé n'étaient pas trop grands pour être pardonnés par Dieu. Et Manassé a commencé à construire une relation avec son Dieu. Dieu l'a beaucoup béni après, lorsqu'il avait changé, lorsqu'il se repentit. Et Dieu ne change pas et il fera de même avec nous. Il va beaucoup nous bénir si nous changeons, si nous nous examinons, si nous reconnaissons nos péchés, si nous nous repentons et que nous changeons, et si nous nous humilions devant Dieu. À l'instar de Manassé. Comme les gens de Corinthe, il a pris le temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme nous voyons avec les gens de Corinthe, c'est que il a abandonné ce qui était mauvais. Il a abandonné ce qui était mauvais, c'est ce que nous voyons dans le verset 15. Il fait disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il a fait place nette, il s'en est débarrassé de ce qui était mauvais. Le deuxième point et le troisième point que nous avons vu tout à l'heure avec les gens de Corinthe, c'est qu'il a remplacé par ce qui était bon. Il a remplacé par ce qui était bon, verset 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. La Bible ne parle pas de repentir, mais nous voyons ici qu'il a produit des fruits dignes de la repentance. Et nous pouvons faire la même chose en remplaçant ce qui est mauvais par ce qui est bon. Ce qui ressort de ces événements, l'histoire de Manassé, c'est l'immense miséricorde de Dieu. L'immense miséricorde de Dieu avec tout le mal que Manassé a fait, avec tout le sang qu'il a fait couler, malgré tout cela, et parce qu'il se repentit, Dieu l'a pardonné et nous voyons l'immense miséricorde de Dieu. Dieu l'a béni au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Les Assyriens étaient des guerriers cruels qui n'hésitaient pas à tuer. Il fallait donc que ce soit Dieu qui intervienne, qui le délivre, qui change sa situation pour qu'il puisse regagner son royaume, pour qu'il puisse récupérer son trône. C'était vraiment un nouveau souffle. C'était une seconde vie. C'était inimaginable. Pourquoi? Parce qu'il s'est examiné. Il a examiné sa vie profondément. Il s'est repenti, il a changé. Et Dieu va nous bénir si nous aussi, si nous changeons. Je trouve l'exemple de Manassé extrêmement encourageant parce que Manassé était très méchant, mais Manassé a changé. Et c'est un encouragement pour nous parce que nous aussi, nous pouvons changer. Si les gens de Corinthe et si Manassé ont changé, nous aussi, nous pouvons changer. Dieu veut qu'il y ait un renouveau, un réengagement à cette époque de l'année avant la Pâque pour que nous puissions redémarrer sur une bonne base, une meilleure base. 2 semaines avant la Pâque, c'est le commencement de l'année, l'année sacrée, et nous avons la possibilité d'effectuer un nouveau départ pour que nous soyons plus forts spirituellement. Il faut que nous puissions examiner notre cœur et que nous soyons bien disposés à obéir à ce que Dieu nous demande.